Erev Tov les Koulam donc. Erev Tov les Koulam, c'est parti, yala. Sefer Devarim. Sefer Devarim, on ouvre un nouveau livre. On ouvre un nouveau livre et c'est pas n'importe quoi. Ce livre, évidemment, nous réserve un sujet qui est le seul qui est important durant notre livre de Devarim. Alors, sans suspense, vous le savez évidemment, quel est le sujet du livre de Devarim? Oui, mes enfants viennent de rentrer d'une balade en roller. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, voilà. Ok. Ok. Bekitsour, c'est parti. Maintenant, on y va. Alors, quel est le but de ce livre de Devarim? Eh bien, ce but, je vais vous le lire, parce qu'il est marqué noir sur blanc. Alors, dans cette fois dans le livre de Bamidbar, au chapitre, attendez deux secondes, au chapitre 8 du livre de Bamidbar, verset 19. Voilà, chapitre 8 du livre de Bamidbar, verset 19. Je vous lis le verset en hébreu, et vous allez me dire s'il y a une redondance dans le verset. Voilà le verset. Ve'etena et ha-Leviim netunim le'Aaron ulevanav mitoch bnei Yisrael, la'avod et avodat bnei Yisrael ba'ohel moed, lechaper al bnei Yisrael, ve'lo yehi bnei Yisrael negef, begeshet bnei Yisrael el ha-Kodesh. Y aurait-il une redondance dans le verset? Voilà, je pense que les choses sont assez claires. Dans un verset, le mot, enfin le tzemed, les mots « Béné Israël » apparaissent cinq fois. Cinq fois dans un seul verset. Donc évidemment, ça demande une explication. Et effectivement, Rashi dira dans ce verset-là que les cinq fois où on met en valeur le mot « Béné Israël », c'est à mettre en relation avec les cinq « Roumachim ». C'est-à-dire que c'est le rôle que représente les Béné Israël dans chacun des « Roumachim ». Et en fait, on nous explique la chose suivante. Si on reprend le texte, de ce verset que je viens de lire, on nous dit Ve'etena et ha-Leviim netunim le'Aaron ulevanav mitor bnei Israël. On nous montre donc la séparation des Leviim d'entre les bnei Israël. C'est en rapport avec le livre de Bereshit où on nous explique que le peuple juif a un rôle séparé du reste des nations. Ensuite, on nous dit, je reprends la suite du verset, la avod et avodat bnei Israël, faire la avodat Hashem. Ça correspond évidemment au livre de Shemot, où on rentre dans la Avodat HaKodesh, dans le Mishkan. Ensuite, on nous dit la Avodat Avodat Bnei Israël Be'ohel Moed, ou le Chaper al Bnei Israël. Le Chaper al Bnei Israël, c'est donc la Kapara du au Korbanot, c'est le livre de Vaïkra. Ve'lo yeh bivnei Israël Negef, il n'y aura pas de, on va dire, de drame, d'attaque contre le peuple juif. Eh bien, c'est évidemment le livre de Bamidbar, où on voit tous les problèmes qu'on a dû passer. Begeshet Bnei Israël et la Kodesh, nous dit Rashi, lorsque les Bnei Israël s'approcheront du Saint, eh bien, nous dit Rashi, c'est Sefer Devarim, puisqu'il nous prépare à l'entrée en Eretz Israël. En d'autres termes, Eretz Israël ici est appelé le Saint, le domaine du Saint, et c'est ça le but du livre de Devarim. Tout le livre de Devarim n'a qu'un seul rôle, nous préparer à la rentrée en Eretz Israël. Tout simplement. Alors, très bien. Très bien, j'entends. Donc, c'est la préparation en Israël. Ve'azma. Eh bien, les amis, je voudrais vous faire rentrer maintenant dans une She'ela Ilchatit Gedola. Est-ce que, ou pas, j'ai le droit de faire ce qu'on appelle Drashat Smuchin? Aïm Moutar Lidrosh Smuchin. C'est une bonne question. Mais avant d'y répondre, il faudrait d'abord que j'explique de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que la dimension de Smuchin? Qu'est-ce que c'est que la dimension de Smuchin? Eh bien, Smuchin, c'est la chose suivante. Est-ce que j'ai le droit, s'il y a marqué dans la Torah un verset qui dit, moi je ne sais pas, tu vas à la piscine, et un deuxième verset juste après, il y a marqué, le lundi, il faut kiffer. Disons qu'il y a deux versets comme ça. Tu iras à la piscine, et ensuite il y a marqué le lundi, il faut kiffer. Eh bien, smuchim nous permet de dire que donc ça veut dire que le lundi il faut aller à la piscine. Puisqu'il y a marqué d'un côté tirer à la piscine, de l'autre côté le lundi il faut kiffer. Donc la notion de coller, smuchim ça veut dire coller, eh bien ça veut dire que le lundi je dois aller à la piscine. Toi, est-ce que j'ai le droit de faire ça? D'étudier la Torah comme ça, en utilisant comme ça des smuchim? Il faut savoir d'abord que cette notion de smuchim, je ne viens pas de l'inventer. Elle fait partie des lamed bet midot chez Torah nidreshet ba'em. Alors, oui, c'est quoi ces lamed bet midot? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais que tous les matins, dans la tefila, on dit Rabbi Ishmael Omer, Beshlosh Esre midot, à Torah nidreshet ba'em. C'est ce qu'on dit dans la tefila, juste avant de rentrer dans Oudou. Beshlosh Esre midot. Nachon. La vie de Rabbi Ishmael, c'est Shlosh Midot, et c'est celui qui a été retenu. Mais il faut savoir que Rabbi Yossé Hagelili, dans le traité de Yevamot, lui propose qu'il n'y a pas 13 attributs pour comprendre la Torah, mais bel et bien 32. Et dans ces 32, eh bien, il nous marque la notion de smuchim. Alors, la Gemara là-bas rejette, particulièrement Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda s'oppose complètement à Rabbi Yossi et dit « On ne peut pas comprendre la dimension de smuchim. » Lama, on ne peut pas l'utiliser. C'est pas qu'on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas l'utiliser. Lama, eh bien, parce que la Torah, c'est, ça vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, eh bien, c'est tout simplement dicté par la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Nous n'avons aucune capacité à comprendre véritablement la pensée de Dieu. Et donc, le fait qu'il y a un ordre de verset dans la Torah, eh bien, ne nous permet pas d'en tirer des indications parce que l'ordre vient directement de la tête de Dieu, si je puis dire, entre guillemets. Et donc, comme je ne peux pas rentrer dans cette tête-là, elle est beaucoup trop grande pour moi, eh bien, je ne peux pas tirer de l'ordre des versets une explication, une compréhension quelconque. Cependant, même si on n'admet pas smuchim en général, eh bien, Rabbi Yehuda dira, oui, mais ça, c'est vrai dans Bereshit, dans Shemot, dans Bamidbar, dans Vayikra, dans Bamidbar. Pas dans Dvarim. Dit Rabbi Yehuda, Sefer Devarim, Moutar Smuchin. On a le droit d'en apprendre des halachot, dû à la proximité des versets. Vezot Madoua. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire la notion de Smuchin dans le livre de Dvarim? Eh bien, tout simplement, parce que c'est la parole de Moshe. Elle est à Devarim, Asher Diber Moshe. Alors certes, Dieu lui a donné un tampon de cachérisation. On a fait Divré Torah. Mais ça vient à la base de la réflexion de Moshe. Et donc, comme il s'agit de la réflexion de Moshe, c'est un homme extraordinaire, mais c'est un homme. Et donc, je peux comprendre quelque chose de l'ordre des versets que lui a dit. En d'autres termes, eh bien, le livre de Dvarim se doit d'être limpide dans l'ordre des événements. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est le livre qui va m'expliquer comment je prends possession de la terre d'Israël. Et donc, je dois comprendre tous les tenants et les aboutissants du livre de Dvarim. Donc, on se rend compte tout de suite que Dvarim, eh bien, c'est vraiment un projet en soi, un projet bifnei atzmo. Il n'a pas vraiment grand-chose à voir finalement avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, la Torah va appeler le livre de Devarim, la tradition juive, pas la Torah écrite, mais la tradition d'Israël, va appeler le livre de Devarim Mishneh Torah. C'est-à-dire quoi, Mishneh Torah? C'est une récapitulation de la Torah. Une répétition de la Torah. Ah, répétition de la Torah. Donc ça voudrait dire que tout ce qu'on va trouver dans le livre de Dvarim est marqué d'une façon ou d'une autre dans les quatre livres qu'on a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mitzvot made in Dvarim. C'est ce que nous dit directement le Talmud. Cependant, il y a plein de contre-exemples. Alors à chaque fois, le Talmud va prendre des contre-exemples et va leur trouver un truc pour dire que non, mais en fait, c'était marqué avant. Genre, par exemple, on va te parler réflexion de Moshe. J'ai pensé que Moshe, ne pouvait écrire un iota sans que Dieu le lui ait dicté. Ah ah ! Grande question posée par Alex sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dvarim vient de la bouche de Moshe. D'abord, je ne vois pas ce qui te déplaît avec le premier verset du livre de Dvarim. Elle est à Devarim, Asher, Diber, Moshe. C'est pas, il n'y a pas marqué, va y d'aber Hachem el Moshe les morts, d'aber el Bene Israël. Il n'y a pas marqué que Dieu a dit à Moshe de dire c'est faire Dvarim. C'est la première chose. Deuxièmement, que fais-tu avec la Gemara qui nous explique que les klalot ou brachot, brachot ou klalot, chez Betorat Kohanim, c'est-à-dire les brachot et klalot de Parashat Bechukotai, Moshe mipi agvura amaram, c'est-à-dire qu'il les a, il a dit après avoir été dicté dans sa parole par Dieu, alors que brachot ou klalot chez Parashat Kitavo, Moshe me'atzmo amaram, que Moshe les a dit directement de lui-même. Et pourtant, tu te dis, si quelqu'un vient dire qu'il n'y a ne serait-ce qu'une lettre de la Torah qui ne vient pas de la dictée de Dieu, tu as rejeté toute la Torah. Et bien, en fait, c'est très simple. Tout le livre de Dvarim, c'est Moshe Amar. Et Moshe, il a tellement bien parlé que Dieu lui a dit, voilà, j'ai kiffé, Tirtov. Et donc, finalement, eh bien, évidemment que Dieu a dicté à Moshe Sefer Dvarim, après que Moshe l'ait déjà dit. Ok ? Donc la dictée a été faite sous la dictée de Dieu, mais il l'a dictée que les paroles que Moshe avait déjà dit. Ça a l'air ? Donc, je reviens sur mon histoire de Mishneh Torah, qui ne peut donc ne pas y avoir une mitzvah qui serait dans le Sefer Dvarim, qui n'aurait pas été donnée d'une façon ou d'une autre ailleurs. Par exemple, pour la mitzvah de Yiboum, qu'on va voir dans la parasha de Kitetsé, eh bien, on nous explique qu'en fait, non, on retrouve déjà la mitzvah du Yiboum dans l'histoire de Yehuda et Tamar. Ça va, fair enough. Le problème, c'est que si ce qu'on dit est vrai, eh bien, il va falloir expliquer quelque chose. Le traité de Gittin, dans le Talmud, pose une question et dit la chose suivante. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut, pour le divorce, donner un guet à sa femme. La mitzvah du divorce, en fait. La mitzvah du divorce, des guitines, d'où est-ce qu'on l'apprend ? Ben, a priori, on l'apprend du livre de Dvarim. Eh oui. Et tu peux regarder de long en large et en travers dans le livre de Bereshit, on n'a pas de divorce. Dans le livre de Shemot, il n'y a pas de divorce. Tu vas me dire, si, il y a Moshe qui a répudié sa femme, il ne l'a pas divorcé. Dans le livre de Vaïkra non plus, Bamidbar non plus. Kitsou, il n'y a pas de divorce dans l'histoire. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que la mitzvah du divorce, qu'on voit noir sur blanc dans le livre de Dvarim, je précise, hein, entre parenthèses, c'est une mitzvah de divorcer, mais seulement s'il y a besoin. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de faire exprès de divorcer. Ah, j'ai expliqué dans le cours du 17 Tammuz qui s'est passé en fait le 9 Tammuz, en fait le 17, machin, et j'ai expliqué que Jérémie n'écrivait rien que Dieu ne lui avait pas dicté. D'abord, est-ce que c'est différent pour Moshe, tu demandes? D'abord, la réponse est oui. La névoie de Moshe, c'est pas la névoie de Yirmiyahu, il me colle à Kavod. Le Yirmiyahu, à un avis, et Yesh Kavod, il n'est pas au niveau de Moshe. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, dans l'écriture du Sefer Yirmiyahu, il est sous la dictée de Dieu. De la même façon, l'écriture du Sefer Dvarim est sous la dictée de Dieu. Je dis juste que les paroles de Moshe sont devenues le Sefer Dvarim. Et lorsque Moshe l'a dit, c'était pas sous dictée de Dieu. C'est tout. Ok ? Bekitsur. Donc, dans mon histoire de divorce, je répète donc, je précise qu'il y a une mitzvah de divorcer, mais tu n'es pas obligé de la faire, cette mitzvah. Hein. C'est-à-dire, à dire de pas la faire. Bekitsour, d'où ça vient? Si ça doit être Mishneh Torah, où c'est? Eh bien, le Talmud va répondre qu'en fait, il y a, oui, la mitzvah du divorce dans les autres livres de la Torah. C'est quand? C'est où? C'est ce qu'on appelle Ashurot Arekot. Il y a, dans le Sefer Torah, entre chaque livre de la, du Sefer, eh bien, pour faire la séparation entre chaque livre, il y a quatre lignes vides dans le Sefer Torah. Nous dit la Gemara dans le traité de Gittin, Misham mitzvat Gittin. C'est de là-bas qu'on apprend la mitzvah de faire le get. Et oui, parce que qu'est-ce que fait le get? Ou koret, il sépare, il coupe dans, dans une unité, dans un couple qui était un, on coupe maintenant et on en fait deux parties différentes. De la même façon que les shurot arekot, que ces lignes vides, eh bien, elles font la coupure, si je puis dire, entre bah, le livre de Bereshit, le Shemot, de Shemot, Veikra. Et nous dit la Gemara, eh bien, il y a donc un bashurot arekot entre Bereshit et Shemot, entre Shemot et Veikra, entre Veikra et Bamidbar. Ces trois fois où il y a quatre lignes qui font la séparation, eh bien, ça fait en tout 12 lignes de séparation. Et de là, Tosfot, là-bas dans le Guidin, va nous expliquer, bah oui, c'est donc de là qu'on apprend qu'un get, un acte de divorce, idéalement doit avoir 12 lignes. De là, on apprend qu'il doit avoir 12 lignes. Et alors, vous allez dire, oui, mais il reste encore quatre lignes entre Bamidbar et Dvarim. Répond la Gemara, non. Là, c'est Mishneh Torah. On ne fait que rappeler ce qu'il y avait avant. Mais ça, c'est très important. Pourquoi ? Ben parce que après les quatre lignes entre Bamidbar et Dvarim, qui sont là, comme on a dit, donc que pour rappeler ce qu'il y avait avant, eh ben, il y a le livre de Dvarim. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire quelque chose de fondamental. Si il y a le livre de Dvarim après les quatre lignes vides, ça veut dire que la kritout, que la déchirure, que la séparation que symbolise ces quatre lignes vides n'est pas la fin du film, n'est pas la fin de l'histoire. Il y a le livre de Dvarim après. De sorte de nous dire que même s'il y a séparation, eh bien cette séparation n'est pas le point final, n'est pas éternel. Il y a une continuité après. Donc, de la même façon qu'il y a une mitzvah de divorcer, il y a une mitzvah qui s'appelle Marzir Grouchato, de se remarier. Dans les cas où c'est possible, évidemment. D'abord, je sais que je suis gentil. Tu me dis, je suis gentil, mais plus d'un tiers des 613 mitzvot sont dans Devarim. Alors, répétition, ben, oui. D'abord, c'est plus qu'un tiers, effectivement, il y en a beaucoup qui sont redonnés, mais toutes ces mitzvot, on les trouve ailleurs. C'est le but, c'est ce que je suis en train de te dire, Nachon, c'est Mishneh Torah. Donc, c'est normal qu'on retrouve toutes les mitzvot. La question, elle n'est pas là. La question, elle est de savoir où est-ce qu'on les trouve avant. Eh bien, il faut que tu cherches au boulot. Je viens de te donner deux exemples. Il te reste donc 611 mitzvot à trouver. Où est-ce qu'on a l'équivalent du Sefer Dvarim dans les autres Chumashim. Et donc, tout ça pour dire que le livre de Dvarim nous montre que même si un jour il doit y avoir séparation entre nous et Amisraël, entre Nusraï et Akadosh Baruch Hu, entre Amisraël et Akadosh Baruch Hu, eh bien, cette séparation n'est pas éternelle. Le livre de Dvarim vient dire qu'il y a un renouveau du lien qui est mis en place. Et c'est la raison pour laquelle Chachamenu, la tradition d'Israël, a mis en place que chaque année, eh bien, on lira la parachat Devarim avant Tisha B'Av. On ouvrira toujours le livre Devarim avant Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est une brisure par excellence. C'est the brisure of the brisure. The séparation of the séparation. Je regardais avec mon fils tout à l'heure, et je vous le conseille d'ailleurs énormément pour là, Tisha Tayamim, Tisha B'Av, tous les petits films super. Super, de Machon Megalim sur le Churban HaMikdash. Enfin, ils font des choses extraordinaires en images de synthèse et moitié archéologie, moitié images de synthèse. C'est très, très bien. Et ça explique très, très bien la chute de Jérusalem et tout ça. Donc, tu vois les... Enfin, je ne m'étais jamais représenté ça en vrai. Je vous avoue, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui et je pense que Je pense que je vais le redire au moins quatre fois jusqu'à Tisha B'Av. Dans au moins quatre cours. Vous pouvez compter. Je vais le redire au moins quatre fois. Je le sens. Ça m'a choqué. Je connais bien cette histoire de Khurban Amikdash, machin, tant au niveau toranique. J'espère que j'ai pas mal étudié ça. Et aussi au niveau archéologique. Je connais pas mal le sujet. Ça m'intéresse énormément. J'ai été à Rome exprès pour ça. C'est-à-dire que, ne le dites évidemment pas à ma femme, hein, bien sûr. Mais il y a trois ans, à Machoukazé. On a enfin réussi à prendre quatre jours de vacances. On avait fait venir mes parents en Israël pour garder les petits et tout ça, machin. Et nous, on est partis quatre jours en France, ailleurs. Et ma femme, elle avait proposé plein de destinations qui étaient plus vacances, quoi. Je lui ai dit, écoute, si déjà on part, on va à Rome. On va à Rome. Bon, moi, je lui ai vendu ça en mode, d'abord, c'est très joli et tout ça, machin. Et en plus, je lui ai dit, mais écoute, comme ça peut-être que dans l'avenir, pour ma part de ça, ce sera bien parce que je vais faire des groupes à Rome et machin. On sait jamais. Bah, moi, je voulais aller visiter, quoi. Moi, je voulais aller voir sur place. Je voulais aller au forum. Je voulais. Bah, je peux te dire que, ça a l'air, les pierres, je les connais. Mais là, dans le petit film de Machon Megalim, tout d'un coup, j'ai réalisé quelque chose. Je le savais, mais j'ai jamais vraiment prêté attention. Que tout d'un coup, tu vois en image de synthèse, tu vois les esclaves juifs qui sont amenés à Rome. Tu vois Shimon Bar Giora. Shimon Bar Giora, c'est le chef de la révolte contre les Romains. Venez, on est clair. C'est lui le patron. Nous, on connaît, en Israël, on parle beaucoup de Elazar Ben Yair quand on va à Masada. Mais le vrai chef, c'est Shimon Bar Giora. Il va être capturé par les Romains et il est traîné devant tout le monde à Rome. Et les milliers d'esclaves juifs qui sont amenés à Rome. Et là, je me suis dit, mais attends, mais viens, je me mets deux secondes à leur place. Parce que moi, je connais l'histoire, mais je sais aussi que Akadosh Baruch Hu nous a pas du tout abandonnés. Parce que regarde la preuve, regarde où sont les Romains, regarde où nous on est, Médinat Israël, tout ça. Mais pour le juif qu'on a pris de Jérusalem et qu'on a emmené maintenant dans le Colisée de Rome, Colisée financé par le pillage de Jérusalem, ça faut le savoir. Le Colisée, il appartient aux Juifs. Il a été créé avec l'argent des Juifs de Jérusalem, faut le savoir. Mais qui tour, je me suis dit, mais pour le Juif qui est là-bas, qui est dans la Taalucha de Nitzachon, qui est en train de se faire balader, mais attends, mais tu m'étonnes qu'il pense que Dieu l'a abandonné. Mais c'est sûr qu'il a l'impression qu'il y a une critoute énorme, une séparation terrible. C'est pour lui qu'on a dit, il faut absolument que tu sois conscient que même s'il y a brisure, c'est pas indéfini. Il y aura une reconstruction. Et donc, 1000 ans après les esclaves de Rome, juste après la période des croisades, la tradition juive a décidé de mettre le début du livre de Dvarim avant Tisha B'Av. Là-bas, pour que tu arrives à Tisha B'Av où tu vas pleurer sur ce qui s'est passé, en disant, ouais, mais c'est pas la fin de l'histoire, la brisure, la séparation, c'est pas la fin du film. Donc effectivement, le livre de Dvarim s'ouvre en nous faisant bien prendre conscience qu'on doit comprendre tous les tenants et les aboutissants du livre, parce qu'il est le code civil, oui, de la vie du peuple juif en Israël. Donc il faut savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Et en plus de ça, il est le tampon de cachérisation du lien éternel qui existe entre nous et Akadosh Baruch. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais quand on rentre dans le vif du sujet, quand on rentre concrètement dans la paracha de Dvarim, eh bien, on va regarder que Moshe Rabbeinu décide d'ouvrir avec une répétition, on a dit. Il décide que c'est peut-être le moment de rappeler à tout le monde quelle a été the avera du peuple juif pendant toute la période du désert. C'est quoi the truc qu'on n'a pas fait comme il faut? Sur quoi il faut revenir? Ou tu sais quoi? Pas de trucs qu'on n'a pas fait comme il faut. On a dit que Dvarim, c'était... Quoi? Alex lui dit, et ça, Echal Evadi. Et alors? Et alors? J'ai pas compris. n'ai pas compris à quoi tu fais allusion là maintenant. Donc, clairement. Non, je veux dire, c'est de répétition. Donc, Moshe va répéter. Qu'est-ce que tu mets en premier, en spotlight? Je sais qu'il va rappeler les 10 commandements, puisque ça sera marqué dans la parashat Vayetranan. Pourquoi il ne l'a pas mis au début? C'est quoi l'événement fondateur du désert, si ce n'est pas Mahamad Arsinaï? Eh bien non. Pour Moshe, ce n'est pas ça, the événement. Ah bon? Alors c'est quoi? Eh bien, the événement pour Moshe, c'est Chet HaMeraglim. Et il revient sur la faute des explorateurs. Il revient sur la faute des explorateurs. Alors nous, on ne va pas revenir sur toute la faute des explorateurs, évidemment, on la connaît. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir la différence. La différence entre la façon dont est présenté Chet HaMeraglim dans le livre de Bamidbar et sa version livre de Dvarim. Pourquoi je dis sa version? Alors, ce n'est pas la même chose. Alors, la faute en elle-même, c'est la faute en elle-même. Vous n'avez pas voulu venir en Israël. Mais là où c'est différent, c'est qui prend la défense d'Eretz Israël. Dans le livre de Bamidbar, hein, attends, dans Echa, dans Jérémie et Echa, la paracha. J'ai compris. Tu dis que parce qu'il y a dans la paracha de Dvarim, il y a l'allusion à Echa, hein, Echa et Salevadi, et donc ça fait l'allusion à Echa et Yashva Badad de la Megillat Echa, donc c'est pour ça qu'on le lit avant Dvarim. Vani Omer, l'eau. C'est-à-dire, bien sûr que c'est une raison. Baruch, c'est une raison. Mais c'est une raison, Rasra. Et moi, j'ai envie de te donner une raison, Sababa. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin que je te donne d'autres raisons d'être en deuil. C'est-à-dire, tu le sais. Routmise que en avelut befares ya beshabbat. Et ça, c'est un grand, une grande kushia que j'ai sur nos frères Ashkenaz, dont je fais partie. Parce que, comme tu le sais, quand on va lire la paracha de Dvarim et qu'on arrive au pasouk de Echa, de la paracha de Dvarim, eh bien, le Baal Koré, il change de mangina, il change d'air et il fait l'air de Tisha B'Av. Miyamar chez des moutards. Deux secondes. Lat. Miyamar chez des moutards de s'affliger pendant Shabbat, en public. Ah oui, quelqu'un qui est en deuil, qui a perdu quelqu'un, machin, ben Shabbat, il n'a pas le droit de montrer son deuil. Et donc toi, tu me dis, non, mais c'est pour ça qu'on lit Megillat Echa, Echa, Echa. Je dis non. Pourquoi on lit Dvarim? C'est pour la raison positive que je t'ai donnée avant. Ah, mama, tu dis, ah, la faute des explorateurs, c'est super positif. Quelle? Évidemment que non, pas la faute en elle-même. Mais ce qu'on va en tirer là maintenant. Et c'est justement ce que je suis en train de dire. La différence entre Chet HaMeraglim version Bamidbar et Chet HaMeraglim version Dvarim, c'est qui prend la défense des Rêtes Israël? Qui parle aux explorateurs? Eh bien, dans le livre de Bamidbar, ceux qui répondent, c'est Caleb principalement, et un peu Yehoshua. Aftarot, c'est Machu Acher. Aftarot, c'est les Shlosha de Puranota. Pourquoi est-ce que tu les lis? Pas pour être en deuil, mais pour apprendre là où il faut corriger. C'est besader de faire tshuva à Shabbat. C'est vrai? Donc, Yehoshua et Caleb sont ceux qui prennent la... Oui? Quelqu'un veut intervenir? Allô, Givat? Non? Tout va bien? Ok. Donc, Caleb et Yehoshua sont ceux qui parlent dans Bamidbar. Dans le livre de Dvarim, tu as l'impression qu'en fait, c'est un autre événement. Parce que quand tu lis la paracha de Dvarim, tu te rends compte que celui qui a vraiment, qui s'est tenu devant les explorateurs, c'est Moshe. Moshe, Birvodo ou Beatmo. Et mais, je vous lis ici le verset. Il est. Verset Kafbet du chapitre Aleph. ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהם. דבור, on se rend compte que c'est pas Moshe tout seul qui a décidé d'envoyer des explorateurs, mais c'est les Bnei Israël qui l'ont demandé. Ok. ויתב בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. ויפנו, ויעלו הערה, ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו אותה, ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו עליהם, וישיבו אותן, אותנו דבר, סליחה, ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו. ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוהיכם, ותרגנו בעוליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנא, אנחנו עולים אחינו המסו את לבבנו. לאמור, עם גדול ורם ממנו, הערים גדולות בצורות בשמיים, וגם בני הענקים ראינו שם. C'est-à-dire qu'il te dit, il te passe en revue. Est-ce qu'on peut garder les questions pour la fin? Et ça aussi, c'est une question. Ok, je vais donner un temps de questions à la fin. Il a raison, Eli. Bekitsour, quoi qu'il en soit, Moshe passe en revue ce qui s'est passé. Et là, ok, jusque-là, c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on a vu dans le livre de Bamidbar. Et là, il dit, va Omar Alechem. Va Omar Alechem. Moshe, il a répondu au Meraglim. Dans Bamidbar, Moshe ne répond rien. On se rend compte, en fait, maintenant, que c'est, oui, Moshe qui va répondre aux explorateurs. Ah, Hadash, on ne le savait pas. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Va omar alechem, lo tarzun velo tireun me'em, Hashem Elohechem haolech lifnechem, hu yilachem lachem, kechol asher asa itechem emitzrayim le'enechem, ומדבר אשר ראית, אשר נשאך, Hashem Elohecha, כאשר יצא איש, את בנו, בכל הדרך אשר הלכתם, עד בואכם, עד המקום הזה. Moshe, il dit, les gars, vous inquiétez pas. Dieu, il va se battre pour nous. Et il va nous faire gagner. Et il va nous faire tous les miracles qu'il nous a fait quand on est sorti d'Égypte. C'est pas du tout marqué dans Bamidbar, ça. Moshe nous dit qu'en fait, c'est lui qui a répondu aux explorateurs. Et alors que dans Bamidbar, l'argument de Caleb, c'était quoi? Na'ale ki yachol nukhalla. Caleb, il a dit, non, mais vous inquiétez pas, on va gagner. On va les battre. Moshe, il dit pas, on va les battre. Moshe, il dit même pas, on va se battre. Moshe, il dit, c'est Dieu, il va faire. Ok. C'est Dieu, il va faire, vasma. Ine. Vaishma Hashem et kol divrechem. ויקצוף וישבע לאמור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי כלב ונבואה, הוא יראנה, ולא ייתן את הארץ אשר דיבר, אשר דר בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי השם. צריך כלל דיו ידי, משה ידי דיו ילדי, תחביה ומונטרו רפאה, כלב יבא מונטחה. מסילה לטריק. אלא משה רפון, Gambi itanaf Hashem biglalchem. Voilà. Le mot gamata lotavo sham. Et ben voilà. Gambi itanaf Hashem biglalchem. Et Dieu lui a dit, bah tu rentreras pas là-bas. Voilà, nous avons la raison, la vraie raison de pourquoi Moshe n'est pas rentré en Israël. Oui, dans la parashat Roukat, on fait allusion au coup du rocher, tout ça, machin. Nachon. Aval, quand Moshe fait la récapitulation de sa vie, et Moshe ne va pas s'auto-mentir, il dit clairement, non. En fait, la raison pour laquelle je ne rentre pas en Israël, c'est à cause de Chet HaMeraglim. C'est dans ce contexte-là que Moshe donne, et vous vous rappelez de mon Smourin, que là, on a le droit de l'ilmot Smourin. Donc si Moshe dit, raconte toute l'histoire des explorateurs, et que le verset suivant est dit, Gambi tanaf Hashem ve'amar elai lotavosham, eh bien, la dracha de Smouchin dit que il n'y a pas de doute. C'est à cause des explorateurs que Moshe ne rentre pas en Israël. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas fauté? Si. Alors, pas du tout la même faute que les explorateurs, chas v'shalom. Mais il leur a dit, vous inquiétez pas, c'est Dieu qui va tout faire. Or, cette idée-là, que c'est pas au peuple juif de prendre possession de la terre d'Israël, de prendre son destin en main, mais c'est Dieu qui gère tout, eh bien, ça, c'est une dimension de l'exil. Ça, c'est la dimension du désert, c'est la dimension de l'Égypte. C'est la dimension d'un peuple qui est incapable de lui-même prendre ses responsabilités. Moshe, montrant qu'il vit encore dans cette, enfin qu'il est, pour lui, la conception d'Eretz Israël doit être la même conception de l'exil. Eh bien, Dieu lui dit, eh bien, à cause de ça, tu ne peux pas rentrer en Israël. Et c'est la première chose sur laquelle Moshe revient pour nous donner les instructions de la terre d'Israël. Ne croyez pas que vous allez vivre dans un monde de bisounours, anané kavod, que Dieu il va s'occuper de tout, il va pouvoir à tes besoins sans que toi tu fasses rien. Oui, Dieu il va pouvoir à tes besoins, bien sûr. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu bosses, mon ami. Sinon, Dieu il pourvoira pas à tes besoins. Viens, on la tourne à l'envers. En mode préparation à Tisha B'Av. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dieu il protège Jérusalem. À condition que Am Israël, il fasse aussi quelque chose pour protéger Jérusalem. Si Am Israël, à l'intérieur de Jérusalem, il ne fait que de se taper dessus et fait des choses pourrites, Sinatrina, Migloar, Shurodaver, Dazara, ce que tu veux, ben non, Dieu ne protège pas Jérusalem. Voilà par quoi on commence le livre de Devarim. C'est de cela qu'on parle. On parle dans Devarim de bien faire comprendre le message au Bnei Israël. Ça va être à vous maintenant de prendre possession de la terre d'Israël. Ça va être à vous maintenant d'être ceux qui effectivement vont devoir être vaillants. Et c'est pour ça que Moshe dit ici dans le chapitre 2, bah c'est bête. Vayomer Hashem elai lemor, rav lachem, sov et ha'ar hazeh, upenu lachem tzafona. ואת העם צב למור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשר ויושבים בהסעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד. אל תתגרו בם, כי לא ייתן לכם מארצם, עד מדרך... נודי לתורה, לדוזיאם שוסו הקל משה רוביין, סיכוי הפכי לסור את זה כלו עתר, היא אוקיי, דוק מנור וזלי, פרון פוזיסיון לתר דישראל, וזלי דוק מונטי פרלנור, וזלי דוק קרוזי הר סעיר, לזה דומה, לפיס דסב. Fais attention à eux. D'abord, tu ne leur fais pas la guerre. Et deuxièmement, tu leur demandes la permission de passer là-bas. Parce qu'Edom est celui qui est Esav. Esav est celui qui gère ce monde tant que Yaakov il est dans les mondes supérieurs. Donc, tant que Yaakov est dans les mondes supérieurs, c'est à Esav qu'on donne le boulot. Maintenant qu'on s'en va, maintenant qu'on sort d'exil, qu'on retrouve notre place au niveau concret, la moindre des choses, c'est d'aller voir Esav et lui dire « Il est Aniba. Je viens. Je viens reprendre possession de ce qui m'appartient. » T'es d'accord ou t'es pas d'accord? C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a dû sortir d'exil, il a fallu demander la permission à celui qui gérait le monde. C'était vrai avec Pharaon, c'était vrai là, avec Moshe, c'était vrai avec Koresh, roi de la Perse. C'est vrai également avec, c'était vrai avec les nations, tant qu'elles ne nous ont pas donné le feu vert pour aller construire notre pays en terre d'Israël. Et enfin, eh bien, Moshe fait allusion dans la fin de la paracha de Devarim, puisqu'il nous dit, voilà, va falloir prendre possession de la terre d'Israël. Il dit, voilà, on a déjà des kabbalotes. On a déjà réussi pas mal. Puisqu'on a déjà commencé la conquête de la terre d'Israël en prenant le royaume de Og et de Sichon, la Jordanie actuelle. Et bien c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça nous aide de savoir cela? Qu'est-ce que ça nous fait de savoir qu'on a conquis la terre, le territoire de Og et de Sichon? Ça montre qu'on est prêt. Ça y est, on a fait des combats tests, on a gagné. C'est le match test. On a gagné, on est bon. Mais c'est également pour nous faire comprendre que Sichon et Og, font partie des royaumes qu'on a dû conquérir pour véritablement remplir notre mission en terre d'Israël. Et je vous pose la question, combien y a-t-il de rois qu'on a dû battre quand on est rentré en Eretz Israël? Combien de rois? Eh bien, regardez, je vous le lis, c'est tout simplement marqué noir sur blanc dans le livre de Yehoshua, au chapitre aîné, chapitre 12, voilà ce qu'on nous dit. Alors, je lis. Attention, ça va aller, ça va être chaud. On dit comme ça. Ve'elem malche ha'aretz asherika Yehoshua ubeni Israël be'ever ha'yarden yama mibal gad bebikat ha'levanon ve'ad ahar echala ka'ole se'ira ve'itana Yehoshua lishifte Israël Yerusha kemachloktam. Ok? Voilà. Kemachloktam. בהר ובשפלה ובערבה ובאשדוד ובמדבר ובנגב החיתי האמורי הכנעני הבריזי והחיבי והיבוסי. אלא הופיע לליסט. מלך יריחו אחד, מלך אחד, מלך ירושלים אחד, מלך עברון אחד, מלך ירמוך אחד, מלך לכיש אחד, מלך עגלון אחד, מלך יזר אחד, מלך דביר אחד, מלך גדר אחד, מלך חורמה אחד, מלך ערד אחד, מלך נדנה אחד, מלך עדולם אחד, מלך מקדה אחד. מלך בית אל אחד, מלך תפוח אחד, מלך חפר אחד, מלך חפק אחד, מלך לשוד אחד, מלך מדון אחד, מלך חצור אחד, מלך שמרון מרעון אחד, מלך עכשיו אחד, מלך תענך אחד, מלך מגידו אחד, מלך קדש אחד, מלך יוקנעם לכרמל אחד, מלך דור לנפת דור אחד, מלך גויים גלגל אחד, מלך תרצה אחד. כל מלכים 31. 31, ça comprend Sihon. Mais ça ne comprend pas Og. Avec Og, autant pour moi, eh bien, c'est fait 32. C'est-à-dire qu'il y a 32 rois qu'on a dû conquérir pour prendre possession véritablement de la terre d'Israël. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais c'est les fameux 32 midot par lesquels la Torah est comprise, d'après Rabbi Yossé à Galilée. Il fallait être capable de s'élever à cette dimension-là qui a pour guématria le mot « lève », évidemment, pour comprendre que maintenant, la terre d'Israël sera bel et bien au cœur de l'identité d'Israël. Jusqu'à présent, on pouvait être un juif non rattaché à la terre d'Israël, mais à partir de maintenant, on ne peut plus être un juif qui n'est pas rattaché à la terre d'Israël. Oui, dans le désert, tu pouvais avoir une autodétermination désertique. Ce n'est plus le cas lorsque tu rentres maintenant en terre d'Israël. Tu ne peux plus t'autosuffire de ta dimension exilique. C'est terminé tout ça. Et c'est pour ça... C'est pour ça qu'on va simplement le retrouver lorsque on va arriver dans le chapitre 4 du livre de Bereshit, au verset Hey, dit la Torah tout simplement Re'e, limadeti etrem chukim u'mishpatim kasher tzivani Hashem Elohai la'asot ken bekerev ha'aretz asher atem ba'im shama le'rishta. Voici la Torah que je vous ai enseignée pour la mettre en pratique dans la terre d'Israël. Le livre de Devarim est donc là pour nous faire prendre conscience qu'à partir de maintenant, notre identité devra passer d'une façon ou d'une autre par l'appartenance à la terre d'Israël. Ça a toujours été comme ça. Enfin non, ça n'a pas toujours été comme ça. Depuis ce moment-là, ça a toujours été comme ça. Quelles que soient les époques, quel que soit l'état de l'exil dans lequel nous étions, eh bien, la partie centrale de notre identité, c'était l'espoir du retour à Sion. La partie centrale de notre identité, c'était l'an prochain à Jérusalem. Parce que sans cet an prochain à Jérusalem, Ein Klum. Ein Klum. Et c'est pour ça que le monde réformé fait tellement peur. On l'avait dit quand on avait parlé de la paracha de Korach. Le monde réformé américain particulièrement fait très très peur dans la mesure où eux, par exemple, dans le Sidour des réformés, dans la bracha de Teka Veshofar Gadol Lecherutenu, Vesanes Lekabetz Geluyotenu, Vekabetzenu Yachad Me'arba Kanfot Haaretz Laartzenu, eh bien, ils ont enlevé, tout simplement, le qu'abetsenu yachad me'arba kanfot haaretz la'artzenu. Il n'y a plus chez eux la dimension de l'an prochain à Jérusalem. Et donc, c'est ce qui me permet de penser que malheureusement, ils risquent fortement de disparaître pour l'identité juive. Voilà ce à quoi nous prépare le livre de